Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Plus de 170 morts, c'est le bilan revu à la hausse des inondations à la suite de la pluie d'avant-hier sur le territoire de Calais au sud Kivu. On compte aussi une centaine de disparus et plus de 50 blessés. Le gouvernement provincial annonce le début de la prise en charge des blessés et aussi des frais funéraires. 11e sommet sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Le secrétaire général des Nations Unies prend part ce samedi à ses assises à Bujumbura au Burundi et Antonio Guterres propose de renforcer les mécanismes de coopération interafricains pour améliorer la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. L'invité de ce journal s'appelle Damien Bungulu Masoudi. Il est écrivain, ethnologue et sociolinguiste congolais et il a publié un ouvrage intitulé « La grammaire française au service de l'expression ». Bonjour à tous. Au sud Kivu, les inondations ont fait plus de 170 morts, une centaine de disparus et plus de 50 blessés. Bilan établi par le gouverneur du sud Kivu qui s'est rendu sur les lieux du drame hier vendredi. Le gouvernement provincial annonce également le début d'une prise en charge des victimes. Emmanuel Elamejo Akabedi.
Le bilan officiel et encore provisoire établi par le gouverneur de province sur place à Calais fait état de 176 corps sans vie tirés des décombres, 57 blessés, au moins 100 personnes portées disparues et plusieurs autres dégâts matériels. Cela fait suite aux inondations et pierres charriées par les rivières lors de fortes pluies qui se sont abattues à Bushushu et Nyamukubi. C'était le 4 mai dernier. Le gouverneur Teongwa Bidyekasi annonce ainsi que son gouvernement prend en charge les frais funéraires pour l'inhumation des disparus. Les blessés sont également pris en charge à l'hôpital sur place et les cas graves seront transférés à Bukavu. Déjà ce même vendredi, un bateau aurait quitté Bukavu avec des médicaments, des ustensiles de cuisine, des vivres et bien d'autres pour les sinistrés de cette catastrophe naturelle. Et parmi les solutions durables, le gouverneur de province annonce la délocalisation des habitants vers d'autres sites hors danger. Et cela, c'est pour lutter contre ces catastrophes devenues périodiques. Côté infrastructure, Teongwa Bidyekasi mentionne l'impérieuse nécessité de réhabiliter la route RN2 coupée à plusieurs endroits dans cette contrée. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et toujours en rapport avec cette catastrophe naturelle dans le territoire de Calais, le gouvernement a décrété un deuil national le lundi 8 mai 2023. Les drapeaux seront à Berne en mémoire des compatriotes décédés à la suite de ces inondations. Cette décision a été annoncée hier vendredi au cours de la 97e réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République. Suivez un extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, extrait proposé par Alain Hirong.
Le président de la République a commencé cette réunion sur une note triste. Il a présenté les condoléances de toute la nation à toutes les familles touchées par les inondations, glissements de terrain qui ont conduit à la mort de plus d'une centaine de compatriotes dans le territoire de Calais en province du Sud Kivu. En mémoire de compatriotes disparus, une journée de deuil national sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en berne. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe.
Dans la province du Kwilu, la situation est de plus en plus dramatique à Dimalumbu, un des quartiers de la commune de Basoko dans la ville de Bandundu. Des inondations provoquées par le débordement des eaux de la rivière Kasai continuent d'occasionner des écroulements des maisons et autres bâtiments officiels, laissant ainsi les habitants sans abri. Le chef du quartier Dimalumbu plaide pour la construction des digues aux alentours de la rivière Kasai pour empêcher le débordement des eaux. Du côté du ministre provincial en charge de l'urbanisme et habitat, on déplore des constructions anarchiques presque dans le lit de la rivière. Irène Boma.
Au total, 132 maisons sont inondées et 25 autres écroulées à Dimalumbu après débordement des eaux de la rivière Kasai qui ont quitté leur lit naturel depuis plusieurs semaines. Dans cette localité, les bureaux de l'État sont emportés, les toitures de plusieurs maisons flottent sur les eaux, les centres de santé inondés et les malades éparpillés. Certains habitants font même usage de la pirogue pour circuler sur les eaux à travers les villages. Le chef des quartiers Dimalumbu, Monsieur Léonard Lamy, lancent ces cris d'alarme.
Les maisons qui sont fissurées sont difficiles à compter et elles vont toutes tomber parce que la fondation est déjà détruite. Tous les bureaux de l'État sont sous l'eau. Les centres de santé sont aussi inondés. La maternité également et toutes les femmes ont fui. Alors tous les ménages dont les maisons sont touchées, nous les avons placés dans des familles d'accueil. Je demande aux autorités de nous venir en aide, de nous doter de sacs vides, même plus de 1000 sacs, pour que nous puissions boucher tous les trous qui font passer l'eau. Joint à ce sujet, le ministre provincial de l'urbanisme et habitat, Joachim Koumarer, parle des constructions anarchiques déjà interdites. En attendant, il annonce la descente d'une équipe sur terrain pour évaluer les dégâts. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Pour améliorer la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, il faut notamment renforcer les mécanismes de coopération interafricains. Cette proposition est du secrétaire général des Nations Unies ce samedi à Bujumbura au Burundi. Il prend part au 11e sommet organisé dans la capitale burundaise sur cet accord cadre. On écoute Antonio Guterres au micro de Fiston Goma.
Il faut, à mon avis, renforcer les mécanismes de coopération interafricains, les mécanismes de coopération avec la communauté de l'Afrique de l'Est, avec l'Union africaine, et les Nations Unies sont là pour appuyer ces organisations africaines, et notamment les pays qui ont signé l'accord cadre, sont là pour appuyer, pour que l'accord cadre puisse être, avec la revitalisation dont on est en train de discuter dans cette réunion, puisse être vraiment un instrument essentiel pour que la paix et le développement puissent s'enraciner définitivement dans la région.
Pendant ce temps, ici au pays, en Ituri, une centaine d'élèves finalistes du secondaire Awalendu Djati, dans le territoire de Djougou, élèves qui doivent se rendre à Bounia pour passer les épreuves hors session de l'examen d'état, sont bloqués. Ils déplorent le manque de transport et l'insécurité sur le tronçon Nizimwanga, où les groupes armés sont actifs. Les notables sollicitent l'intervention du gouvernement provincial pour garantir la sécurité et l'encadrement du déplacement de ces élèves, ainsi que la construction des infrastructures scolaires détruites depuis le plus d'une année dans leur secteur. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Les notables de la communauté de Walendu Djati déplorent presque la quasi-inexistence des infrastructures scolaires dans 5 localités dans cette entité coutumière, dont Yalala, Petsi, Tilili, Chuja et Limani. Ces infrastructures ont été détruites après les affrontements l'année dernière entre les miliciens de la Codeco et les militaires des FARDC à Bambou en juillet 2021. Certains établissements scolaires ont été pillés, d'autres vandalisés et détruits complètement lors de ces combats qui ont poussé de nombreux parents et leurs enfants à quitter la zone. 3 écoles, le complexe scolaire Koba, l'école conventionnée catholique de Kobu et l'institut CBK ont été délocalisés, indique Paul Matata, chef de Walendu Djati. À ce jour, au moins 100 finalistes du secondaire de l'institut Koba, Bambou Mine et Iti qui ont été récupérés de leur milieu de refuge après ce drame poursuivent les cours dans des locaux abandonnés. Paul Matata.
Des finalistes qui devaient aller faire présenter leur examen, ils n'ont pas un moyen de déplacement. Ils sont ici avec ce qui s'est passé récemment à Mwanga. Ce que je vais demander au gouvernement, c'est de venir à l'aide afin que ces élèves puissent se présenter.
L'insécurité sur les tronçons Bambou, Nizi ainsi que la situation sécuritaire peu rassurante sur la route Mwanga, Lipri vers Bounia ne rassure pas ces élèves. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, le calme est revenu ce samedi dans les localités de Benakalobo et Benamukoi, dans le groupement Benamwantanumbi et Benamwadi, suite à la présence des éléments de la police nationale congolaise venue de Mweneditu. D'après l'administrateur du territoire de Lwilou, les habitants de ces deux localités se disputent les limites des terres arables. Ils se sont affrontés jeudi et le bilan provisoire fait état d'un mort et de plusieurs blessés graves, dont un dans un état critique. Explication avec Esther Ndalafina.
D'après l'administrateur du territoire de Lwilou, tout a commencé le soir de mercredi dernier lorsque les habitants de Benamukoi s'étaient rendus au champ pour se partager les portions de terre qu'ils devraient cultiver à la saison culturelle prochaine. Ayant appris cette information, les habitants de Benakalobo se sont organisés pour les attaquer. Un d'eux qui était armé a tiré en direction d'un habitant de Benamukoi qui a rendu l'âme immédiatement. La dépouille mortelle de la victime a été enterrée jeudi dernier. dernier. D'autres personnes non encore dénombrées ont été blessées après avoir reçu des balles perdues. Un blessé se trouve dans un état critique. La même source précise qu'après les affrontements, les habitants de ces deux localités ont vidé leur village et sont actuellement dans la brousse. Les éléments de la police sont actuellement visibles dans les deux localités. Signalons que c'est la énième fois que les habitants de ces deux localités s'affrontent. Les dernières décisions de la justice n'ont jamais été respectées par une des parties qui avait perdu le procès, affirment d'autres sources contactées sur place. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
La commission électorale nationale indépendante n'a pas besoin de subir des pressions de quelque nature que ce soit concernant l'opération de l'audit externe du fichier électoral, inscrit du reste dans le calendrier électoral. Déclaration faite hier vendredi à Kinshasa dans un communiqué de presse signé par la rapporteuse Patricia Seyamulela. La CENI attire l'attention de l'opinion sur le fait qu'aucune organisation nationale ou internationale ne détient le monopole de l'expertise de l'audit externe du fichier électoral. Le condensé de ce communiqué avec Lech Walassa.
Dans ce communiqué, la centrale électorale indique qu'elle va faire dans les tout prochains jours un appel à candidature en vue de constituer une équipe mixte composée d'experts nationaux et internationaux pour conduire la mission d'audit externe du fichier électoral. Pour la CENI, étant donné que le processus actuel des révisions du fichier électoral s'est fait en mutualisation des ressources avec l'Office national d'identification de la population ONIP, contrairement au cycle passé, il est nécessaire de traiter la base des données avec toutes les précautions en rapport avec son indépendance, la souveraineté et l'intégrité nationale et la protection des données personnelles. La centrale électorale souligne que l'audit externe fait partie des bonnes pratiques auxquelles elle se soumet de son propre gré. Le communiqué indique enfin que cet exercice est prévu dans le calendrier électoral et repris dans son plan stratégique opérationnel 2022-2026. Rappelons que cette communication de la CENI intervient après le désistement de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour l'opération d'audit externe du fichier électoral, évoquant une contrainte des délais.
25 personnes considérées comme des criminels économiques ont été arrêtées au Sud Kivu par les services de renseignement, avec sur eux notamment 26 kilos d'or, 400 000 dollars américains, des milliers d'autres devises, des coffres forts non encore ouverts, 15 ordinateurs portables et 41 téléphones mobiles. Ce réseau composé d'étrangers ainsi que de certains chefs de services spéciaux congolais a été transféré à Kinshasa. Il est accusé de blanchiment des capitaux, trafic illicite des matières premières et financement du terrorisme. Ces criminels ont été présentés hier vendredi au ministre de la Justice, des Mines et des Finances. On écoute tour à tour la ministre de la Justice, Rose Mutombo, celle des Mines, Samba Kalambay et Nicolas Kazadi des Finances, extrait choisi par Alain Irung.
Que tout celui qui va continuer à soutenir les criminels économiques et complices, il sera sanctionné.
Ce n'est qu'un début. Nous allons continuer, nous, au sein du ministère des Mines, à travailler dans la commission de lutte contre la fraude minière avec le soutien, bien entendu, du service de renseignement militaire.
Il s'agit ici d'un grand combat, d'une grande guerre, parallèle à la guerre qui se passe sur le terrain à l'est de notre pays. Et ce sont justement ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d'insécurité à l'est de notre pays.
L'invité. L'invité de ce journal s'appelle Damien Bungulu Massoudi. Il est écrivain, ethnologue et sociolinguiste congolais. Il vient de publier un ouvrage intitulé « La grammaire française au service de l'expression ». Dans ce livre, l'auteur brise la zone d'ombre qui plane entre la grammaire traditionnelle éditée par Maurice Grévis et la grammaire moderne conçue par le linguiste français Jean Dubois. Dans un entretien avec Radio Okapi, l'auteur parle des innovations contenues dans son œuvre en faveur des locuteurs de la langue française. Bungulu Massoudi Damien s'entretient avec Gabriel Wamenya.
Bungulu Massoudi Damien, bonjour.
Bonjour, monsieur Gabriel Wamenya.
Vous venez de publier un livre aux éditions Dina Printa Service intitulé « La grammaire française au service de l'expression ». De quoi s'agit-il exactement?
Dans ce manuel, nous voulons donner une occasion aux apprenants et aux enseignants de français, les nouvelles théories sur la grammaire française. Et cette nouvelle théorie sur la grammaire française elle s'applique sur une façon de trancher sur la querelle qui s'oppose sur le terrain aujourd'hui entre deux tendances qui s'opposent.
Il y a la quelle tendance ?
Il y a la grammaire traditionnelle, chapeautée par Monsieur Grévis, et la grammaire nouvelle, la grammaire moderne, chapeautée par Dubois et Lagame.
Ils s'opposent en quoi, Monsieur Bungulo ?
Ils s'opposent à beaucoup de faits. D'abord, tous sont ensemble sur les classes des mots. Dans la nouvelle grammaire, comme dans l'ancienne grammaire, on est d'accord sur les 9 catégories grammaticales, mais avec des appellations différentes pour certaines espèces, notamment le nom, l'adjectif, l'adverbe, l'article, le verbe, la préposition, la conjonction, l'interjection. Mais pour la nouvelle grammaire, il y a quelque chose qui s'ajoute maintenant.
Laquelle ?
Le problème se situe au niveau d'abord de la conception de Monsieur Grévis. Pour Grévis, il considère que les classes de noms, il les distingue en deux groupes. Il y a les invariables et les variables. Pour aujourd'hui, cette distinction entre les variables et les invariables n'est plus tellement tranchée, parce que il y a beaucoup de mots aujourd'hui qui étaient considérés comme étant invariables, qui varient aujourd'hui.
Par exemple,
prenons l'adverbe. L'adverbe, d'après Maurice Grévis, ça fait partie des mots invariables. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, prenons une phrase comme cette fille est toute belle. Le mot « toute » là-bas, à côté de « belle », elle, ça signifie « cette fille est tout à fait belle ». Autrement dit, « tout » ici est un adverbe. Mais cet adverbe, dans ce contexte, il varie parce qu'il est à côté d'un mot féminin commençant par une consonne. Dans ce cas-là, les adverbes varient. Donc, les frontières entre les variables et les invariables, en tout cas, ce n'était plus tranché aujourd'hui. Deuxième chose, le problème s'oppose au niveau de ce que M. Grévis considérait comme étant la classe des adjectifs. Maurice Grévis distingue deux sortes d'adjectifs. Il y a des adjectifs qualificatifs et les adjectifs non qualificatifs. Qui sont ces adjectifs non qualificatifs? Ce sont les possessifs, les démonstratifs, par exemple « ma »,« ta »,« ça ». Or, actuellement, quand on dit par exemple « ma fille », le mot « ma » à côté de « fille » indique que « ma » est « fille » est au singulier et au féminin. Cette fille, le mot « cette » indique que la fille est au singulier et au féminin. Le même rôle, il est joué par « la ». Quand je dis « la fille », « la » indique que « fille » est au singulier et au féminin. Comment alors on peut distinguer les trois mots qui jouent presque le même rôle? Les uns, on les classe comme les articles, et les autres, on les considère comme ça des adjectifs non qualificatifs. C'est pour cela que tous ces mots-là, dont le rôle consiste à déterminer le mot, c'est-à-dire à indiquer le genre et le nombre, dans la grammaire moderne, nous classons ces mots dans une nouvelle classe qu'on appelle aussi aujourd'hui les déterminants. Et dans ce bloc-là, on trouve des déterminants définis et des déterminants indéfinis. C'est cette notion qu'on appelle ici, dans la grammaire moderne, la catégorisation, c'est-à-dire un mot qui change de catégorie grammaticale. Quand on parle le mot précédé d'un déterminant, il devient automatiquement un nom.
Un nom.
Voilà, les frontières ne sont plus hermétiques.
Alors, quelles sont les grandes innovations selon vous qu'apporte cet ouvrage à l'expression française pour les locuteurs de cette langue?
Les innovations, c'est que dans ce manuel ici, j'ai fait allusion à la phonétique aussi. Parce que on a tendance à écarter la grammaire de la phonétique. Et pourtant, la phonétique fait partie de la grammaire. Parler une langue, c'est la parler couramment. Alors,
est-ce que vous ne craignez pas que dans le futur, d'autres grammairiens ne puissent pas apporter d'autres innovations qui balayent les vôtres contenus dans cet ouvrage?
Bon, si cela arrivait, ça ne me surprendrait pas parce que la science avance par contradiction. Thèse, antithèse, synthèse, comme la philosophie de Hegel. C'est la science qui gagnerait si vraiment cette innovation vient apporter de lumière là où il y avait des zones d'ombre.
Monsieur Bungulo Massoudi Damien, je vous remercie.
Merci aussi pour Okapi à travers vous, Monsieur Wamenya Gabriel.